Vous avez évoqué, Frédéric, la conversion, ou en tout cas l'incarnation désormais de Jacques Toubon comme défenseur de la morale. Y aurait-il une possibilité de faire de Donald Trump une nouvelle incarnation de la morale en relations internationales, puisqu'il se propose de larguer des missiles, je cite, « beaux et intelligents » contre Bachar el-Assad, qu'il a traité d'animal. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales, professeur des universités à Sciences Po. Vous avez notamment publié En quête d'alternatives aux éditions La Découverte. Nous accueillons Annick Cizel. Bonjour, vous êtes historienne, bonjour, professeure des universités à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. L'idée selon laquelle Donald Trump pourrait aujourd'hui suivre une ligne morale, qu'en pensez-vous ?
La diplomatie morale était plutôt l'apanage de Woodrow Wilson à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et il est clair que ça n'est pas dans la rhétorique, qu'elle soit Twitter ou autre, du président Trump depuis son entrée à la Maison-Blanche. Quand on écoute, je réfléchis est-ce qu'il y a au sein de son administration quelqu'un qui pencherait un tout petit peu dans ce sens-là ? Peut-être Nikki Haley à l'ONU. Il est certain que son discours était très moralisateur. Son discours, il y a donc 24 heures maintenant, mais dans le même temps, était très choc, mentionnant les enfants, tentant effectivement d'amener plus de compassion, voire de révolte, très graphique dans le discours. On ne retrouve pas vraiment une majorité morale comme on aurait pu l'imaginer sous Ronald Reagan, par exemple. Ça n'est pas le discours, en tout cas, en matière de politique étrangère. Politique intérieure, peut-être un peu plus, mais du tout.
En France, en tout cas, il y a un discours qui commence à se faire entendre. Ce discours met en doute ou formule des interrogations, comme on dit poliment, sur la réalité des frappes chimiques. C'est un discours qui est très présent, notamment à droite. On va écouter l'ancien député et porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre.
Là, aujourd'hui, il faut se méfier. Il y a tellement d'interventions militaires qui ont été déclenchées sur des fake news. Donc, je pense qu'il faut effectivement prendre le temps de vérifier qu'on n'est pas prisonnier. Et là, on va parler de Trump. Qu'on n'est pas prisonnier d'une affaire intérieure. Parce que la réalité, si Donald Trump, il est si dur avec la Russie depuis un certain nombre de semaines, comme par hasard, ça correspond à un moment où, sur la scène intérieure, il est mis en cause pour être justement aux côtés de la Russie pendant la campagne,
et l'enquête du procureur
dans
Mueller,
la déstabilisation d'Hillary Clinton. Et moi, je ne voudrais pas que nous nous retrouvions en réalité, en nous réveillant dans quelques mois ou quelques années, à avoir enclenché une opération sur la base d'informations qui s'avéreraient fausses pour simplement régler un problème de politique intérieure américaine. Mais si l'attaque est avérée, je pense que le président Macron a parfaitement raison et il faut intervenir avec détermination.
La voix de Frédéric Lefebvre, ancien député porte-parole de l'UMP, qui était hier dans l'émission de Jean-François Aquili, Tout est politique, chez nos confrères de France Info. Annick Cizel, donc deux points importants. D'abord, est-on sûr qu'il y a eu des frappes chimiques perpétrées par Bachar el-Assad en Syrie ? Et second point, finalement, Trump fait cela pour des raisons de politique intérieure.
Alors, Theresa May est en train de se poser exactement la première question et demande effectivement des preuves, en tout cas de manière à pouvoir contourner sa Chambre des communes. Il semblait, d'après la presse britannique ce matin, qu'elle allait contourner la Chambre des communes, mais s'assurer de preuves intangibles qui lui permettent, dans un contexte britannique très très compliqué dans les suites de la guerre d'Irak, aller frapper même des frappes aériennes en Syrie, pour les Britanniques c'est compliqué, il y a toujours un débat, elle est sur le fil du rasoir politique, y compris au sein de son propre parti actuellement. Donc ce discours de droite conservateur, du parti conservateur au Royaume-Uni actuellement, reprend exactement la rhétorique de Frédéric Lefebvre que nous venons d'entendre.
Soyons candides, a-t-on besoin aujourd'hui de preuves ?
De preuves qu'il y a eu attaque chimique, sans doute pas. De preuves des auteurs de l'attaque chimique, la question est là. C'est-à-dire régime de Bachar el-Assad, sans aucun doute. Quelle est la position des Russes ? Quelle est l'implication potentielle de la Russie dans ce qui vient de se passer ? Et la question, sachant que depuis août 2013, la Russie était responsable, a priori, avait endossé la responsabilité de la fin des armes chimiques, du contrôle de la fin des armes chimiques du côté syrien, d'où le fait que le pays soit aussi montré du doigt actuellement. Et ce qui met à nouveau, c'est pas un hasard si le Royaume-Uni réagit de cette manière, puisqu'ils sont accusés dans l'affaire Skripal, ils sont accusés par la Russie de ne pas avoir de preuves suffisamment tangible que la Russie est effectivement derrière l'agent toxique.
Bertrand Badi, votre point de vue, il y a aussi une autre hypothèse qui circule, le fait que cette attaque chimique, comme les autres, pourrait être le fait de Maher al-Assad, qui est le frère de Bachar, et qui serait en quelque sorte un radical du régime qui pousserait son frère dans des directions qui peut-être n'auraient pas été choisies par Bachar. Votre point de vue sur tout ceci?
Oui, je crois qu'il faut se méfier de toutes ces élucubrations. À chaque fois, c'est la même chose. On nous sort tout un tas d'explications tarabiscotées. On ne peut jamais savoir de manière totale et absolue. C'est même le propre de l'usage de ce type d'armes que de laisser toujours un doute sur des champs de bataille auxquels il est extrêmement difficile d'avoir accès. Mais je crois que la chose est en réalité plus simple. La probabilité semble assez forte, si on en croit les multiples témoignages, y compris, c'est peut-être les plus sérieux, ceux qui viennent de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui ne peut pas être taxée là de partialité. Mais de toute manière, ceux qui nous expliquent qu'il y a eu attaque chimique, notamment beaucoup d'ONG qui travaillent en ce sens, nous disent en même temps que c'est probablement la 85e attaque chimique depuis le début du conflit. Alors, effectivement, c'est là qu'on comprend que ce qui est en train de se passer maintenant au niveau international et singulièrement au niveau américain est d'une autre nature. C'est-à-dire que si on choisit de réagir aujourd'hui et d'orchestrer de cette façon cette réaction, c'est qu'il y a des considérations. Alors, politique intérieure, je laisse ma consoeur s'exprimer sur ce point. Ça ne me paraît pas très crédible. En revanche, un projet politique sur le Moyen-Orient, ça c'est important. Alors c'est la raison pour laquelle la France doit faire très attention, parce que si Emmanuel Macron s'engage, comme il l'a dit, uniquement dans l'idée de combattre l'usage des armes chimiques, il faut aussi qu'il prenne à ce moment-là la mesure que ce qui est en train de se passer dépasse et de beaucoup cette question.
Annick Cizel, votre point de vue à ce sujet sur l'idée qu'il y aurait des considérations de politique intérieure dans cette volonté de Donald Trump d'intervenir maintenant.
Alors c'est un fait qu'il y a toujours un substrat depuis l'élection, d'essayer de replacer le curseur pour le président Trump. On l'a tellement accusé de copinage avec Vladimir Poutine. Pour la première fois, il a prononcé le nom de Vladimir Poutine en le mettant directement en cause dans ce qui est en train de se passer, changeant sa ligne. Mais la ligne, elle a changé il y a une quinzaine de jours. Elle a changé quand Rex Tillerson est viré, fired, quand Mike Pompeo, terriblement anti-russe, est actuellement donc sur la sellette pour être confirmé au Sénat comme nouveau secrétaire d'État, et surtout avec l'arrivée de John Bolton à la tête du Conseil de sécurité nationale des États-Unis depuis ce lundi.
Ce sont pourquoi deux ces gens-là ont-ils été choisis, selon vous, Annick Cizel?
Clairement, ils sont la crédibilisation du président Trump sur le flanc russe. C'est-à-dire, ce sont deux faucons, entre guillemets. Ce sont deux anti-russes tout à fait proches, dans leur déclaration en tout cas, de l'enclenchement d'une sorte de troisième guerre froide, la deuxième étant sous Reagan. Et ils crédibilisent donc un président Trump qu'on pensait trop soft, trop gentil avec la Russie. Son discours a complètement changé depuis l'arrivée de John Bolton. C'est peut-être, si Trump effectivement envisage de liquider la situation du ministère de la Justice actuellement, on reparle à nouveau que Jeff Sessions pourrait être débarqué, le numéro 2 qui a mis en place le procureur spécial Mueller également, et Mueller lui-même peut-être. Ça serait donc l'interface intérieure de ceci. Pour autant, sur le flanc extérieur, la Russie comme l'Iran sont dans les cartes de ce qui est en train de se décider autour de la Syrie.
Mais alors, ça déplace un peu le problème. C'est-à-dire, on vous suit lorsque vous dites ce recrutement est un recrutement qui, aujourd'hui, place à la tête du système de défense et des relations internationales américaines un certain nombre de personnes qui sont anti-russes. La question, c'est de savoir pourquoi Donald Trump a fait cette modification maintenant.
Alors à la fois, je pense que c'est une concession au Congrès. On va commencer par le Parti républicain, parce qu'il était vraiment à 180 degrés. Sa position personnelle était à 180 degrés de celle du Parti républicain au Congrès depuis un an. Donc c'est une concession. C'est sans doute le réalisme politique d'un Donald Trump transactionnel qui voit qu'il est en train de perdre ce bras de fer sur le flanc intérieur. C'est aussi... on ne peut pas perdre de vue les élections de mi-mandat qui arrivent au mois de novembre, qui s'annoncent très mal. On a appris hier que même Paul Ryan, le chef de la majorité à la Chambre des représentants, est tellement persuadé d'une défaite que lui-même ne va pas se représenter. Donc, relancer un climat de guerre, de menace extérieure et revenir à cet ennemi de l'intérieur communiste, très chasse aux sorcières des années 50, ça a souvent marché dans la politique électorale aux États-Unis.
Ou même postérieure. On peut penser à Ronald Reagan et on voit que des politiques étrangères robustes, je vais employer un euphémisme, comme celle qui a été menée par Ronald Reagan, Bertrand Badi, peuvent porter leurs fruits en matière de relations internationales.
Oui, mais figurez-vous que depuis le temps de Reagan, le monde et le système international ont profondément changé. Moi, ce qui me frappe le plus après 40 ans de métier en relations internationales, c'est l'aveuglement sur le temps, c'est-à-dire les transformations profondes. Du temps de Ronald Reagan, on était dans une vraie bipolarité et dans un vrai face-à-face de superpuissance. Aujourd'hui, où sont les champs de bataille du monde ? Au Moyen-Orient, en Afrique, ils sont au sud. Et qui les mène ? Quel est le processus qui conduit à cette conflictualité ? Des acteurs locaux, avec leurs problèmes, leurs soucis, leurs difficultés, leurs tensions, leurs contradictions.
Les protagonistes du premier étage, comme vous les avez appelés.
Exactement, même du rez-de-chaussée, là, en l'espèce.
Mais en l'occurrence, c'est plutôt le second et le troisième étage.
Alors, justement,
là-bas. C'est juste pour rappeler votre métaphore, Bertrand Badi, la question syrienne, par exemple, aujourd'hui, elle est réglée entre Iraniens, entre Russes et Turcs, c'est-à-dire des gens qui n'appartiennent pas à la région la plus proche.
Attention, d'abord, elle n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée. Enfin, c'est-à-dire, je dis, face à la victoire militaire de la Russie, il y a une défaite politique persistante, c'est-à-dire une incapacité d'enclencher un processus de paix. C'est-à-dire, il y a deux processus de paix parallèles, il ne faut pas l'oublier. Le processus de Genève, qui est plutôt mis en scène par les Occidentaux avec la légitimation des Nations Unies, et puis le processus Astana-Sotchi-Ankara, qui est mené par les Russes. Ni l'un ni l'autre n'aboutit. Ce qui est très dangereux dans la situation actuelle, c'est que dans l'incapacité de gérer cette conflictualité du rez-de-chaussée, c'est-à-dire celle qui mobilise les acteurs sur le terrain, on est en train d'internationaliser ce conflit et le rendre à ce moment-là totalement insoluble. Et faire même des acteurs locaux l'otage de règlements de compte de superpuissance, ce qui est extraordinairement dangereux. Et c'est la raison pour laquelle il faut y regarder à deux fois.
Annick Cizel, votre point de vue.
Je pense qu'il faut aussi se méfier du discours américain qui est en train de tout focaliser sur la Russie. Nikki Haley à l'ONU a mentionné deux pays qui étaient potentiellement dans la ligne de mire, si je peux le dire comme ça. C'est la Russie et bien sûr l'Iran. Il est évident que la position française a été très claire là-dessus. Il ne faut toucher à aucun des alliés de Bachar. Et la présence, l'acceptation par Washington de la présence des Français et des Britanniques dans une possible coalition vers des frappes aériennes me semble être aussi, entre autres choses, une caution à l'Iran que les bases militaires iraniennes sur le terrain syrien ne seront pas touchées. Sachant qu'Israël, il y a une dizaine de jours, a bombardé une base militaire iranienne sur le terrain, sachant qu'il est question à suivre que l'Arabie Saoudite participe à d'éventuelles frappes sur la Syrie actuellement, et que l'on sait très bien que l'étau est en train de se resserrer, tel que le Parti républicain au Congrès le souhaite depuis des années maintenant, autour de l'Iran, autour de la non-certification vraisemblable le 12 mai prochain de l'accord nucléaire iranien par le président Trump, et vers potentiellement une montée en puissance, une escalade vers une guerre envers l'Iran. Donc les enjeux sont véritablement locaux et je me méfie beaucoup du pays dont on ne mentionne pas tant que ça le nom actuellement à Washington, qui est peut-être beaucoup plus une cible que la Russie.
Bertrand Badi.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la grande difficulté dans ce conflit, c'est que Trump suit quatre finalités, obéit à quatre finalités. Il y a d'abord montrer la puissance des États-Unis, ça a été une vieille revendication, America is back, etc. Deuxièmement, contrer la Russie parce que ça commence à bien faire, cette capacité de la Russie de mener le jeu un petit peu partout. Troisièmement, reprendre pied au Moyen-Orient, parce que ça c'est une défaite considérable pour les États-Unis. Ils sont pour la première fois, en tous les cas depuis 1945, en situation d'impuissance, d'incapacité totale dans cette région du monde. Et quatre, actionner cet axe Riyad-Tel Aviv-Washington, avec notamment comme cible qui réunit ces trois protagonistes, l'Iran. Donc, vouloir en même temps punir Assad, contrer Poutine, pourchasser l'Iran et Rouhani, c'est quelque chose de très dangereux. Vous savez, Clausewitz le disait, à partir du moment où la finalité n'est pas unifiée, où elle n'est pas claire, une action militaire ne peut conduire qu'à l'absurde et qu'à l'inefficacité.
Mais l'action peut être claire, même si elle est implicite, comme vous le dites, Annick Cizel, puisque c'est très rationnel de vouloir aujourd'hui juguler l'Iran de la part des États-Unis, non ?
Il est certain que l'expansionnisme iranien est un fait actuellement dans la région. Le retour de la puissance iranienne,
par
d'ailleurs,
le biais
dans sa région,
du Hezbollah,
par le biais du Hezbollah également,
il faut rappeler la présence, notamment au Liban. Bertrand Badi fait la grimace, il aura la parole dans quelques instants. Annick Cizel.
Mais il est certain que, au-delà de ce fait, de la réinstitution d'une puissance iranienne dans la région, l'endiguement de cette puissance et la dénucléarisation de l'Iran, c'est autre chose que d'enclencher un processus, une escalade vers un conflit avec l'Iran. Sachant que, dans le même temps, les intérêts convergents d'Israël, de l'Arabie Saoudite ou des États-Unis divergent avec ceux de l'Union européenne, d'où l'importance d'une coalition élargie. Le nom de l'Australie flottait hier soir, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais d'une coalition élargie suffisamment pour maintenir une forme de stabilité dans les suites. Et d'une intervention, il ne faut pas perdre de vue que le président Trump a annoncé 2 jours avant les frappes chimiques, ou 3 jours avant les frappes chimiques, qu'il retirait les forces américaines de Syrie. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un confluent, même pas paradoxal, on ne sait pas... Il semble être dépassé par les événements. Il a ouvert la porte en annonçant le retrait des forces américaines. Il a ouvert la porte à une réponse par les armes chimiques. Et aujourd'hui, il faut prendre une décision, effectivement, qui ne peut pas être du long terme, qui ne peut pas être un réengagement dans la guerre en Syrie. C'est trop tard.
Un mot de conclusion, Bertrand Badi.
Oui, je suis préoccupé de voir à quel point on refuse aux puissances qui ne sont pas les vieilles puissances, ce statut de puissance régionale. L'Iran, qu'est-ce que c'est ? C'est banalement une puissance régionale. C'est banalement une puissance régionale, comme la Turquie est banalement une puissance régionale, comme l'Arabie Saoudite est banalement une puissance régionale. Et il y a une constante dans le jeu international de refuser à ces États qui ne sont pas ceux du club issus du Conseil européen, le statut de puissance régionale. L'Iran n'est pas expansionniste. L'Iran, elle est comme la France ou l'Allemagne en Europe l'ont été pendant très longtemps, des puissances régionales.
En Syrie, si, elle l'est un peu.
Elle est une puissance régionale, c'est-à-dire n'importe quel conflit européen qui avait lieu au 19e ou au 20e siècle faisait valoir des intérêts propres à chacune des puissances européennes. Que un conflit aux portes de l'Iran fasse valoir des intérêts propres à l'Iran, c'est banal. La grande difficulté, le grand danger, c'est que vous avez au Moyen-Orient que des puissances régionales contrariées. La Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Qu'on les laisse s'accomplir comme puissance régionale et peut-être qu'on trouvera une situation plus équilibrée.
Un mot de conclusion, Annick
Cizel. Et historiquement conflictuelles entre elles.
Un mot de conclusion.
En Europe aussi. Les États européens étaient...
Tout à fait.
Un mot de conclusion sur ce qui pourrait aujourd'hui survenir, Annick Cizel. Est-ce que le tweet de Donald Trump va demeurer un tweet sur les frappes possibles en Syrie ?
Il s'y est engagé. Comment peut-il faire marche arrière maintenant sans devenir Obama, c'est-à-dire ce qu'il essaie tellement de ne pas être, dire il y a une ligne rouge, elle a été franchie, j'ai annoncé des frappes en Syrie, finalement nous ne frappons pas. Bon, le Pentagone, on peut penser que Jim Mattis, qui n'est pas du tout favorable à quelque intervention que ce soit contre l'Iran, on peut penser que Jim Mattis sous-pèse vraiment précautionneusement les éventualités, les options militaires. Ceci étant, je vois mal comment le président Trump, aujourd'hui, peut faire marche arrière.
Merci à tous les deux. Bertrand Badi, En quête d'alternative, l'état du monde 2018, c'est le livre que vous avez publié à La Découverte. Et merci à vous, Annick Cizel. Je rappelle que vous êtes historienne et professeure des universités à Paris 3.